Vous êtes avec SBS French.
C'est toujours la pandémie de coronavirus qui domine l'actualité en Australie comme dans le reste du monde. Aux États-Unis, Donald Trump vient de décréter l'état d'urgence. En Australie, le ministre de l'Intérieur, Peter Dutton, a lui aussi contracté le coronavirus. Et en Nouvelle-Zélande, la journée de commémoration des attentats de Christchurch qui devait avoir lieu demain vient d'être annulée, elle aussi, à cause de ce Covid-19. Le coronavirus continue de se répandre à travers le monde et l'épicentre de la pandémie n'est désormais plus en Chine mais en Europe, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Plus de 130 000 personnes ont contracté le virus à travers le monde où des cas sont avérés maintenant dans 123 pays et le nombre de victimes a lui franchi la barre des 5 000 personnes. Tedros Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS, est désormais très alarmiste et prévient que tous les hôpitaux sur la planète doivent se préparer à l'apparition d'un nouveau foyer d'épidémie.
You can't fight a virus if you don't know where it is. Find, isolate, test and treat every case to break the chains of transmission. Every case we find and treat limits the expansion of the disease. Reduce transmission, isolate the sick and quarantine their contacts. In addition, measures that increase social distancing may help to reduce transmission.
Aux États-Unis, Donald Trump a décrété il y a quelques heures l'état d'urgence, une procédure qui va notamment permettre de débloquer des fonds au niveau fédéral. En l'occurrence, le président américain a annoncé une enveloppe de 50 milliards de dollars américains, mais aussi la distribution de 5 millions de kits de dépistage d'ici à la fin du mois. Je vous propose d'écouter un extrait de sa déclaration.
Aujourd'hui, j'annonce officiellement l'urgence nationale. Cette mesure va permettre de débloquer jusqu'à 50 milliards de dollars pour les États, les territoires et les municipalités dans notre combat commun contre cette maladie. Et dans le cadre de cette urgence, je demande instamment à chaque État de mettre en place immédiatement des centres d'urgence. Je demande aussi à chaque hôpital de ce pays d'activer les plans de préparation aux urgences pour qu'ils puissent partout répondre aux besoins des Américains. Nous allons retirer ou éliminer tout obstacle nécessaire pour fournir à notre peuple les soins dont il a besoin et auxquels il a droit. Aujourd'hui, nous annonçons un nouveau partenariat avec le secteur privé pour augmenter massivement et accélérer nos capacités à dépister le coronavirus. Nous sommes en contact avec les pharmacies et la grande distribution pour installer des centres de tests accessibles aux voitures dans les lieux critiques. Le but, c'est que les gens puissent conduire jusqu'à ces lieux et être testés sans sortir de leur véhicule. Nous ne voulons pas que tout le monde se soumette à ces tests, c'est totalement superflu. Cela va passer, nous allons dépasser cela et en sortir plus fort. Nous avons beaucoup appris.
En Australie, l'un des principaux membres du gouvernement a contracté lui aussi le coronavirus. Il s'agit du ministre de l'Intérieur, Peter Dutton, qui en conséquence a été placé à l'isolement. En revanche, le Premier ministre Scott Morrison, bien qu'il était en contact direct avec lui, et y compris très récemment, refuse pour l'instant de se soumettre à un test de dépistage ou de rester confiné, comme cela a été pourtant conseillé pour l'ensemble des personnes qui ont été en contact avec Peter Dutton, comme à vrai dire tous les autres personnes malades du coronavirus. Alors cette décision, bien sûr, elle fait polémique, tout comme celle d'interdire les rassemblements de plus de 500 personnes, mais seulement à partir de lundi. Qui plus est, cette interdiction reste pour l'instant toute relative, puisque, comme l'a précisé Scott Morrison vendredi, elle ne concerne pas de nombreux lieux publics tels que les écoles ou les universités.
Now that of course doesn't include schools, it doesn't include university lectures, it doesn't mean people getting on public transport or going to airports or things of that nature. These events that we're seeking to advise against and restrict is for non-essential organized gatherings of persons of 500 or more. Now there'll be many issues to work through between now and Monday.
Alors pourquoi ne pas avoir interdit ces rassemblements dès maintenant ? Eh bien pour éviter de créer la panique au sein de la population, explique le gouvernement. De son côté, Brendan Murphy, le médecin en chef de l'État australien, a lui rappelé que le risque d'exposition au coronavirus en Australie reste pour l'instant très faible.
Most of our cases still are imported, but we know that some of those imported cases have led to some community spread. We want to be as far ahead of the game as any country and control the spread of this virus and make sure that we keep its outbreaks in Australia to as limited as possible.
Alors le risque est peut-être faible, néanmoins la panique a déjà gagné une partie de la population australienne. L'illustration la plus flagrante, c'est cette crise du papier toilette qui a poussé les grandes chaînes de supermarchés à mettre en place des mesures de rationnement. Le groupe Coles vient d'ailleurs d'en annoncer de nouvelles qui ne concernent désormais plus seulement le papier hygiénique, mais également des denrées non périssables. Alors dans le détail, les consommateurs ne pourront désormais pas acheter plus de 2 paquets de pâtes, 2 paquets de farine, 2 paquets de riz, 2 bouteilles de gel hydroalcoolique et 2 rouleaux de sopalin et 2 paquets de mouchoirs. Direction maintenant la France où après la fermeture de tous les établissements scolaires jusqu'à nouvel ordre, la suspension du championnat de Ligue 1, le gouvernement a annoncé hier l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes. En revanche, les élections municipales dont le premier tour aura lieu dimanche sont-elles maintenues ? Ailleurs en Europe, c'est l'Italie qui reste le pays le plus touché par l'épidémie, mais le coronavirus a gagné du terrain ces derniers jours en Espagne, où on dénombre désormais plus de 4200 cas. En conséquence, le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, vient de mettre en place l'état d'alerte. Il en appelle également à la responsabilité de chacun. Je vous propose d'écouter un extrait de son allocution traduite par nos confrères de Radio France Internationale.
L'état d'alerte est un outil de notre état de droit qui est précisé dans notre Constitution pour faire face à des crises aussi extraordinaires comme celle qu'est malheureusement en train de vivre le monde et aussi notre pays. L'urgence sanitaire et sociale générée par le coronavirus, le Covid-19, crée des circonstances extraordinaires que la loi prévoit pour doter le gouvernement espagnol de ressources légales qui sont également extraordinaires. Durant la réunion prévue demain, le Conseil des ministres va adopter un ensemble de décisions exceptionnelles en vertu de l'état d'alerte qui sera décrété demain. Ces décisions seront destinées à mobiliser toutes les ressources de l'État pour mieux protéger la santé de tous les citoyens. Des ressources économiques, sanitaires, publiques ou privées, civiles mais aussi militaires, pour protéger tous les citoyens et en particulier ceux qui sont les plus vulnérables face à ce virus du fait de leur âge ou d'autres pathologies préalables, mais également pour permettre de répondre à l'urgence sociale et économique avec le plus d'agilité et de fermeté.
Social y económica con la máxima agilidad y contundencia.
Et plus près de nous, en Malaisie, un nouveau foyer est apparu dans la périphérie de la capitale, Kuala Lumpur. Une dizaine de personnes ont été contaminées alors qu'elles participaient à un événement religieux qui a rassemblé plus de 16 000 personnes. On fait le point sur place avec la correspondante de RFI, Gabrielle Maréchaux.
C'est une contamination qui a débuté à la mosquée Sri Petaling en périphérie de Kuala Lumpur. 16 000 personnes étaient présentes pour un rassemblement de masse initié par le mouvement prosélyte Tabligh du 27 février au 1er mars. 15 jours plus tard, 2 Singapouriens qui étaient présents sont déclarés positifs au coronavirus et 11 fidèles de retour au Brunei deviennent les premiers cas de leur pays qui en compte désormais 25. En Malaisie, parmi les 9 cas recensés ce jeudi, 3 au moins sont liés au cluster et les autorités cherchent désormais à tester tous les fidèles présents à cet événement. Pour éviter que le virus ne se propage dans sa communauté musulmane, Singapour a fermé toutes ses 66 mosquées. En Malaisie, où l'absence à la prière du vendredi peut faire l'objet de poursuites judiciaires pour les hommes musulmans, un seul état du nord du pays a suivi les mesures de Singapour. Le ministre des Affaires religieuses a cependant conseillé aux mosquées de faire des sermons plus courts, de proposer gel et masque. Les fidèles sont eux invités à faire leur ablution chez eux. Gabriel Maréchaux, Kuala Lumpur, RFI.
En Nouvelle-Zélande, la journée de commémoration des attentats de Christchurch en hommage aux 51 fidèles musulmans qui ont été tués alors qu'ils étaient rassemblés dans deux mosquées de la ville et qui devait avoir lieu demain vient d'être annulée à cause de l'épidémie de coronavirus. Hier cependant, la ministre Jacinda Ardern a participé à la prière du vendredi avec un millier de fidèles musulmans. Cet attentat, commis donc le 15 mars 2019, par un suprémaciste blanc australien a profondément changé la société néo-zélandaise où le taux de criminalité est d'ordinaire extrêmement faible. Mais en raison de la menace terroriste toujours élevée selon les services de renseignement, le gouvernement maintient un dispositif policier important au grand dam d'une partie de la population qui a le sentiment que la Nouvelle-Zélande s'est transformée en régime autoritaire. On écoute les explications de Yelena Tomic pour RFI.
À deux jours du premier anniversaire du pire massacre dans l'archipel depuis plus de deux siècles, la première ministre a voulu être aux côtés des familles des victimes et de toute la communauté musulmane pour montrer sa solidarité et son soutien. En un an, d'importantes mesures de sécurité ont été prises. Un vaste programme de contrôle et de rachat des armes en circulation, ainsi qu'une expérimentation de patrouilles armées dans trois régions. Des mesures qui, loin de rassurer, divisent. En effet, une partie de l'opinion publique s'inquiète du tournant sécuritaire dans l'archipel qui était jusqu'ici connu pour son très faible taux de criminalité. L'alerte terroriste, un an après le carnage, est toujours au niveau moyen, ce qui signifie qu'un attentat pourrait se produire selon les renseignements néo-zélandais. Autre danger pointé du doigt par la chef du gouvernement, l'idéologie extrémiste contre laquelle encore beaucoup reste à faire, a reconnu Jacinda Ardern. En attendant, sur plus de 450 signalements, les services de renseignement enquêtent sur 30 à 50 personnes et réclament un débat sur les espaces cryptés difficiles d'accès et que privilégient dans leur communication les individus partageant les idées racistes, nazies, identitaires ou suprémacistes.
Et un rapide mot de sport maintenant, puisque le Français Martin Fourcade, quintuple champion olympique de biathlon, a annoncé qu'il allait prendre sa retraite sportive à l'issue d'une compétition qui va se dérouler aujourd'hui en Finlande. Je vous propose d'écouter une partie de la déclaration du sportif français le plus titré aux Jeux Olympiques.
C'est énormément d'émotion, mais c'est un sentiment d'apaisement. J'ai vraiment le sentiment de faire le bon choix. C'est pas une décision binaire, c'est pas du biathlon, c'est pas blanc ou noir, et c'est beaucoup plus nuancé, parce que je sais que ça va me manquer plus que tout. C'est ce à quoi j'ai dédié la première partie de ma vie, et je sais que ces émotions de la compétition vont me manquer, que cette vie de groupe va me manquer, mais voilà, je regarde tout ça avec la vision de tout ce qui reste à écrire, avec l'envie de me rapprocher aussi de ma famille et des gens qui comptent énormément pour moi. Voilà, énormément d'émotions, mais beaucoup d'apaisement, beaucoup de fierté et le sentiment de pouvoir partir apaisé en ayant transmis le relais que Vincent Defrane m'avait donné il y a 10 ans en équipe de France.
Et pour finir ce journal, on jette maintenant un œil à la météo de ce samedi. Il pleut à Perth et il fait 25 degrés, 18 degrés à Melbourne qui est sous les nuages, 23 degrés à Sydney où là aussi il y a des averses, pareil à Canberra avec une température de 18 degrés. En revanche, il y a du soleil à Adelaide où il fait 21 degrés, soleil aussi à Cairns avec 33 degrés, 28 degrés à Brisbane, 34 degrés à Darwin et un tout petit 14 degrés à Hobart où le temps sera nuageux aujourd'hui.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.